Kiné actualité du jeudi 12 avril 2007. Tendinopathie et tendinite par Franck Mettet, Metais. Franck Mettet est masseur kinésithérapeute, doctorant en S-Sciences, département médical de l'INSEP, Paris 12e. Avant d'aborder l'évaluation clinique ainsi qu'une partie du traitement, certains points fondamentaux concernant la biomécanique, l'anatomopathologie et la physiopathologie des tendons seront repris. Il est en effet indispensable d'avoir assimilé ces notions pour comprendre le fonctionnement du tendon, ses mécanismes lésionnels et donc l'intérêt des différentes phases de l'interrogatoire et de l'examen clinique. Cette démarche permet d'aboutir à un diagnostic précis et une prise en charge thérapeutique adaptée et optimale. Fonction et composition du tendon. Le tendon fait partie des structures qui lient et stabilisent les articulations du système squelettique. Bien que passif, c'est-à-dire ne produisant pas activement du mouvement comme le font les muscles, il joue un rôle essentiel dans le mouvement articulaire. Sa fonction est d'attacher le muscle à l'os et de transmettre les forces musculaires aux pièces osseuses. Le tendon permet aussi aux muscles d'être à une distance optimale de l'articulation. Tendon et corps musculaire forment une unité à part entière qui agit comme une composante dynamique. Le tendon est composé de trois entités: l'endothénon, le plus proche des cellules tendineuses, l'épithénon, réseau de collagène dense formant une fine gaine de tissu conjonctif, le paraténon, enveloppe de tissu conjonctif large recouvrant le tendon qui crée l'espace de glissement nécessaire au libre mouvement du tendon par rapport au tissu voisin. Chaque fibre tendineuse se compose de faisceaux de fibres collagène, les fibrilles orientées parallèlement aux lignes de force du tendon. Ils s'insèrent soit directement sur et dans l'os par des fibres performantes, soit par l'intermédiaire du périoste. À la jonction tendon-muscle, les fibres tendineuses se continuent en superficie avec le périmysium et en profondeur avec les cloisons conjonctives intramusculaires, endomysium. On peut donc dire que c'est un matériau précontraint dont le rôle principal sera de résister aux forces qui s'exercent selon l'axe de ses fibres. C'est pour cela que les tendons possèdent l'une des forces de résistance les plus élevées de tous les tissus mous corporels. Le tendon est un tissu conjonctif dense, très peu vascularisé, ce qui va avoir des implications sur les possibilités de cicatrisation lors de blessures. La vascularisation provient des vaisseaux issus du muscle, essentiellement du tissu osseux de la périphérie au niveau des gaines fibreuses, entre parenthèses paraténon. Le tendon, un organe mécanique de transmission de la force musculaire. Le tendon présente des caractéristiques mécaniques qui déterminent les propriétés de transmission de la force générée par le muscle au squelette auquel il est rattaché. Il est doué de propriétés viscoélastiques sous l'effet d'une contrainte, force par unité de surface. Il subit une déformation instantanée, comportement élastique, suivie d'une déformation qui augmente progressivement, comportement visqueux. La viscosité, qui peut se définir comme une résistance à la déformation, ne dépend pas uniquement de la charge appliquée. Elle est aussi liée au temps d'application de cette charge, ainsi qu'à la vitesse à laquelle celle-ci est mobilisée. Plus la traction est longue, plus l'allongement est potentiellement important. La résistance maximale du tendon normal se situe entre 48 et 98 N au millimètre carré. Pour les gros tendons, comme le tendon calcanéen, ceci entraîne une contrainte maximale à la rupture d'environ 6275 N, entendez des newtons. Or, au cours d'activités physiques intenses, les forces appliquées au tendon peuvent approcher cette limite critique. Par exemple, la force développée lors de la frappe d'un ballon de football est de plus de 5700 newtons. Néanmoins, un mouvement rapide provoquera une contraction réflexe des muscles antagonistes, limitant ainsi les possibilités d'étirement. De plus, si cette tension s'exerce lentement avec un muscle relâché, le tendon sera préservé puisqu'il est protégé par l'extensibilité plus importante du muscle. Par ailleurs, le tendon, du fait de sa viscoélasticité, verra ses caractéristiques mécaniques modifiées par les variations de température et le traitement mécanique antérieur à la sollicitation. Sur le muscle isolé, par exemple, la viscosité du tendon se stabilise après une dizaine de répétitions, étirements, détentes. Ceci peut aussi expliquer qu'il est préférable d'étirer un muscle qui a été préalablement échauffé. Cet organe proprioceptor, dont le rôle est de nous informer consciemment ou inconsciemment sur la position et le déplacement des parties du corps par rapport à notre environnement, perception kinesthésique, est constitué de petits faisceaux de fibres collagène. Ces faisceaux s'attachent à la terminaison tendineuse de quelques fibres musculaires appartenant à différentes unités motrices et aux fibres du tendon. Ces organes sensibles à la tension développée par le muscle jouent en quelque sorte le rôle de jauge de contrainte. Si la tension augmente trop fortement ou trop rapidement, ils envoient un signal inhibiteur de la contraction du muscle agoniste, jouant un rôle protecteur de celui-ci. C'est le réflexe myotatique inverse. Le réflexe myotatique, lui, met en jeu les fuseaux neuromusculaires et induit une contraction du muscle après un étirement excessif. De plus, lorsqu'ils sont stimulés, les OTG peuvent aussi envoyer un signal excitateur au muscle antagoniste. De fait, lorsque la tension est trop grande ou trop raide, on observe une décontraction ou un relâchement réflexe du muscle antagoniste. Ce mécanisme inhibiteur autogène des OTG permet donc d'éviter une tension que les os ou les tissus conjonctifs ne pourraient supporter. Le tendon présente donc des caractéristiques mécaniques importantes pour l'expression de la force musculaire et exerce un rôle protecteur de l'intégrité du système musculo-tendineux. Le tendon, immobilisation et activité. L'ensemble des travaux portant sur la plasticité tendineuse en fonction de la variation de la contrainte illustre bien l'importance du collagène dans l'expression des propriétés mécaniques. Les phénomènes adaptatifs sont complexes et doivent être interprétés avec nuance. Les tendons semblent être beaucoup plus sensibles à l'hypoactivité qu'à l'hyperactivité. L'amplitude de la réponse du tissu tendineux ne peut seule être prise en compte. L'aspect temporel doit être considéré. Une courte période d'hypoactivité induit une modification importante des propriétés morphologiques et mécaniques, alors qu'une longue période d'hyperactivité ne peut provoquer que de faibles modifications. Physiopathologie et anatomopathologie. Les tendinopathies peuvent avoir diverses origines, rhumatismales, métaboliques, dégénératives ou microtraumatiques. Devenu au même titre que la pubalgie, des syndromes fourre-tout, le HIT à bon dos et simplifie à tort le diagnostic. Contrairement aux apparences, une lésion tendineuse reste d'un pronostic bien souvent incertain. Si cette pathologie demeure bénigne sur le plan médical, elle est rapidement handicapante pour un sportif qui en souffre. Il est alors nécessaire et indispensable d'acquérir une meilleure connaissance de l'anatomopathologie de ces lésions qui devrait nous mener à une démarche thérapeutique plus efficace. Le démembrement des tendinopathies a abouti à l'individualisation de pathologies d'origine mécanique, traumatique ou microtraumatique, et inflammatoire au sens large du mot. Inflammatoire, infectieux, métabolique, iatrogène, tumoral, etc. La diversité de ces lésions prouve qu'il est actuellement impropre de parler de tendinite, terme trop restrictif, et de préférer celui de tendinopathie. Ces lésions peuvent toucher le corps du tendon. Tendinite en cas de lésion inflammatoire, tendinose si la lésion est dégénérative, rupture partielle ou totale, son insertion sur l'os, enthésopathie, les structures péritendineuses, ténosynovite ou paratendinite. Un tendon sain est macroscopiquement blanc et luisant. La plupart des travaux histopathogéniques sur le tendon se sont essentiellement intéressés aux lésions dégénératives mécaniques et moins aux lésions de type inflammatoire. Les tendons symptomatiques des sportifs apparaissent macroscopiquement gris et amorphes. L'activation fibroblastique témoigne d'une tentative de cicatrisation qui reste incomplète et de mauvaise qualité. On note, dans ce contexte mécanique, l'absence de cellules inflammatoires au sein de ces lésions. ce qui a fait abandonner le terme de tendinite pour celui de tendinose. Ces travaux peuvent être néanmoins critiqués puisqu'ils ne peuvent être réalisés que sur des lésions chroniques irréversibles relevant d'un traitement chirurgical. On ne peut donc pas dire aujourd'hui si ces lésions dégénératives ne sont pas précédées d'une phase inflammatoire. Ces lésions histologiques tendineuses sont à envisager aux trois parties du tendon. Le corps, la zone d'insertion et la gaine fibreuse de stabilisation avec sa bourse conjonctive de glissement. On retrouve dans ces trois structures des lésions très proches qui témoignent de l'unicité réactionnelle du tissu conjonctif. Œdème, exsudation fibrineuse, nécrose et rupture. Cependant, ces lésions peuvent rester muettes. Dans la tendinite, on observe une réaction inflammatoire intratendineuse associée, à divers degrés, à des lésions vasculaires, des lésions de tendinose. Ces lésions de tendinite et tendinose peuvent se compliquer d'une inflammation de l'enveloppe externe, ténosynovite ou paratendinite, ainsi que de nécrose centrale, d'une rupture partielle ou totale du tendon. L'inflammation des structures péritendineuses peut également se rencontrer de façon isolée. La réparation du tendon. La réparation tendineuse est longue et décrite en quatre phases pendant lesquelles le tendon est vulnérable. La phase inflammatoire du premier au troisième jour. La phase de cicatrisation du quatrième au trentième. La phase de réparation de 1 à 3 mois. Et la phase de réhabilitation de 3 mois à 1 an. On considère qu'un déficit de 20 à 30% peut persister suite à une lésion tendineuse, voire que cette réparation puisse être non productive et laisser des lésions chroniques non inflammatoires de type nécrose, nodules fibreux, cavités kystiques, calcification et ossification. On connaît actuellement un certain nombre de facteurs pouvant influencer cette réparation dont il faut tenir compte dans la prise en charge thérapeutique. Avec l'âge, on observe une déshydratation des structures tendineuses cartilagineuses ainsi qu'un épaississement des fibres de collagène responsables d'une diminution de l'élasticité et de la résistance de ces structures, essentiellement après 60 ans. La conséquence est la nécessité d'un temps de repos et de récupération plus long, bien que ce facteur important puisse devenir néfaste et ne devra pas être absolu. Il est nécessaire de maintenir une activité contrôlée pour faciliter la réparation anatomique et la récupération des propriétés biomécaniques. Les deux derniers facteurs influençant cette réparation font appel aux thérapeutiques elles-mêmes. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, ces traitements sont largement utilisés dans le but de réduire les douleurs et l'inflammation. Encore faudrait-il prouver que l'inflammation est néfaste à la phase de réparation et que ces molécules sont complètement inoffensives pour les tendons. Il faut noter que le pronostic est en règle générale moins bon dans le cas des tendinoses que dans le cas des tendinites, mais également lorsque le patient se présente à l'état chronique. En outre, lorsqu'un patient consulte rapidement après l'apparition des signes cliniques, la récupération s'effectue habituellement en moins de 2 semaines pour une tendinite et entre 6 à 10 semaines pour une tendinose. À l'état chronique, il faut prévoir 4 à 6 semaines de récupération pour une tendinite contre 3 à 6 mois pour une tendinose. Par ailleurs, on constate que l'échec des traitements conservateurs est plus important pour les tendinoses que pour les tendinites. Conclusion. Toutes ces données ont une répercussion sur la compréhension, le pronostic et le traitement de ces tendinopathies. La prise en charge vous sera présentée dans le numéro suivant. C'était donc Kiné Actualité du jeudi 12 avril 2007, numéro 1064.